RMC, l'invité des grandes gueules.
Michel Fils qui est avec nous. Bonjour Michel.
Bonjour.
Ça fait 40 ans que vous regardez la France, que vous regardez la société française, que vous regardez les adolescents surtout. Là, vous sortez un livre qui s'appelle « La crise morale de la France et des Français ». Enquête sur un individu trop certain, Sautez éditions, Mimesis. Alors, avant de parler de la crise morale que traverse la France, le spécialiste de l'adolescence, là, que pense-t-il de ce qui est arrivé à Samara? Que pense-t-il de ce qui est arrivé à Chemchedi? Un a perdu la vie, l'autre a été tabassé pour des histoires d'émancipation, des histoires de code moral, de code religieux. Que se passe-t-il?
Eh bien, j'ai envie de dire que dans une société qui a perdu ses codes, ses valeurs, ses repères, il ne reste que des codes, j'ai envie de dire, substitutifs, hein, le code de l'honneur dont on parle depuis quelques jours par rapport à l'affaire de Véry-Châtillon. Non, ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que, on peut même plus parler de transgression par rapport aux règles, parce que ça supposerait qu'il y ait des règles et des règles qui soient connues. Donc on agit sous le coup de la pulsion, de l'émotion, pour obtenir une satisfaction immédiate, mais sans nécessairement être dans un projet criminel. Par exemple, pour ce qui concerne la...
Ça veut dire qu'on n'a pas conscience? Ils n'ont pas conscience au moment où ils mettent quelqu'un à terre et qu'ils lui tapent dans la tête passer?
Oui, c'est-à-dire que les policiers eux-mêmes sont tout à fait surpris du fait qu'il n'y a pas conscience de la gravité de...
Garçon ou fille, hein, parce qu'on met une fille à terre, on lui tape dans la tête pour la tuer. On met un garçon de 15 ans parce qu'il a eu le malheur de parler avec une sœur et que la sœur n'a pas le droit de parler au garçon.
Voilà, alors ça, c'est des codes qu'on retrouve chez certains jeunes de cité, hein, c'est-à-dire... la soi-disant protection des grands frères exercée sur les jeunes filles, voilà, au nom de tradition qui assure ce rôle effectivement au mal dominant, si l'on peut dire, voilà, et ça entraîne ces séries d'actes qui sont incontrôlés. C'est-à-dire, par exemple, quand on dit dans cette affaire qu'il y a un soupçon d'assassinat, je ne pense pas, hein, je serais plus du côté de la thèse de l'avocat qui dit qu'il y a eu des coups effectivement volontaires portés, voilà, mais pas nécessairement avec intention de donner la mort. D'ailleurs, l'idée, c'est de donner une bonne raclée, de faire comprendre qu'il y a des choses qui ne se font pas entre garçons et filles, qu'il y a des sujets dont on ne parle pas. Mais l'assassinat, ça veut dire de monter une opération avec véritablement l'intention radicale de tuer l'autre. Voilà, je pense qu'on n'en est pas quand même tout à fait là. Alors, c'est pas moins grave pour autant, hein, naturellement. Ouais. Mais
est-ce qu'il y a une ultra-violence aujourd'hui qui monte chez les ados?
Oui, alors il y a quelque chose d'assez paradoxal.
Alors, ultra-violence, c'est un peu le terme à la mode.
Mais... alors d'abord, faut pas confondre délinquance et violence, hein, ce que font un certain nombre de mes petits camarades sociologues, parce que ça permet de dire parfois des bêtises. Donc, il y a une stabilisation statistique de la délinquance des mineurs. Hein, j'ai regardé par rapport à l'an 2000. Les chiffres, hein, sont toujours autour de 160, 170 000 jeunes mis en cause. Voilà. Mais par contre, il y a une explosion des violences réelles. Hein, et avec une particularité, c'est que tout n'est pas enregistrable. Par exemple, si vous allez dans un commissariat, que vous déposez une main courante, eh bien, elle sera enregistrée ou pas enregistrée selon le commissariat, selon... voilà, donc tout ça échappe déjà à la visibilité statistique. Maintenant, vous êtes dans le métro, vous essuyez un mauvais regard, hein, ou vous refusez une cigarette, hein, ou sur une place de parking, vous refusez de céder la place, eh bien, vous avez une altercation qui va évidemment pas entrer dans le champ statistique s'il n'y a pas évidemment d'infraction qui tombe sous le coup du code pénal. Cracher à terre, bon... C'est pas très viable, mais ça tombe pas sous le coup de la loi, alors que c'est une...
Mais notre société est plus violente? Est-ce que la jeunesse est plus violente aujourd'hui? Alors, en étant beaucoup plus jeune, on voit les policiers nous raconter qu'ils interpellent des gamins de 10, 12 ans qui sont dans la violence vis-à-vis de leurs enseignants, de l'autorité.
Et je peux compléter par une question, puisque tout à l'heure vous avez expliqué que le problème, c'est ils transgressent pas des règles puisqu'ils sont déjà même pas au courant de la règle. La question, c'est qui pose la règle? Qui est le premier dans la vie d'un enfant qui pose la règle?
Voilà. Alors, Évidemment,
dès
que
la
les,
petite enfance.
Évidemment que les parents sont en première ligne.
Voilà.
Et moi, j'avais été frappé quand j'avais enquêté sur les relations familiales au milieu des années 80. Il y avait une formule qui, à mon avis, était tout à fait illustrative et qui était d'ailleurs aussi en application dans le milieu scolaire. C'est quand un parent, un jour, m'a dit « Oh, vous savez, la politesse des mots, c'est pas très important. L'important, c'est la politesse du cœur. » Eh bien, à partir de ce moment-là, tout était foutu finalement,
oui,
parce
que
on a reculé sur les mots, on n'a plus nommé les valeurs, hein, ce qui est perdu. Vous savez, une société, c'est comme une maison, ça doit reposer sur des fondations. Et les premières fondations, ouais, c'est des valeurs civiles et individuelles, avant même
est-ce
les valeurs.
Est-ce que ça a à voir avec l'immigration ?
Non, pas plus. Vous savez, il y a pas de profil type. Hein. Donc là, effectivement, dans l'affaire
de. Est-ce que ça a à voir avec le communautarisme ?
Alors, ça a à voir avec un certain enfermement, ça a à voir avec une certaine exclusion scolaire, professionnelle, bon, avec un urbanisme qui peut être dégradé. Mais attention, pas de raccourci, c'est pas parce qu'on est pauvre ou dans une famille à difficulté qu'on va devenir nécessairement un délinquant. Voilà. Non, le plus grave, encore une fois, c'est ce socle moral, enfin, au sens sociologique du terme, c'est-à-dire des mœurs collectives, des règles. On ne peut pas vivre ensemble si, encore une fois, on est dans le rapport de force au quotidien.
Oui, pourquoi il y a le refus de l'autorité? Pourquoi est-ce qu'on ne respecte plus l'enseignant, l'école, et on estime que ce qui se passe en dehors de l'école est plus important que ce qu'il y a à l'école?
Eh bien, là, il y a eu deux philosophies qui ont eu des effets assez néfastes, hein. C'est la confusion qui a été faite dans les années 70 entre libéralisme et laxisme. Voilà. Et on a été à une époque où on a vulgarisé la psychanalyse en disant finalement, la meilleure éducation, c'est de ne pas en faire.
Voilà.
Voilà. Ce qui a donné lieu évidemment à l'enfant roi, hein, auquel on n'a pas interdit. Donc jusqu'à ce propos de cette mère disant, bon, si mon fils me dit merde, c'est pas grave, il m'aime. Voilà, c'est l'important. Voilà. Et au même moment, dans les écoles, on a commencé à voir quelque chose qu'on a minimisé, c'est la violence verbale. Hein, et je me souviens d'un professeur, également chercheur, qui disait, mais vous savez, oui, dans les classes, il y a quelques mots quand même, des mots d'oiseaux, comme on disait encore à l'époque, voilà. Mais vous savez, si on devait relever ça, on passerait son temps à faire ça.
Voilà.
Voilà. Et bien, ça a été le commencement de la fin. C'est-à-dire que, d'abord, on n'a pas enregistré les violences verbales, et les chercheurs de l'éducation ont été les premiers à dire, ce sont des micro-violences. Hein, c'est pas important.
D'accord, donc on a fermé les yeux.
On a fermé les yeux.
D'accord.
Voilà. Okay. Sauf qu'on oublie que c'est avec les mots qu'on fait du harcèlement. Voilà. Donc si effectivement on accepte les mots violents, eh bien on ouvre le champ évidemment des violences harcelées sur les réseaux sociaux en particulier.
Bruno Poncet.
Moi je trouve que la question, la société est-elle devenue violente? Moi je pense réellement que la violence elle a basculé vers des plus jeunes, de plus en plus jeunes qui sont. C'est ça qui est vraiment inquiétant. Par contre, elle a toujours été violente. Enfin, moi, j'ai un grand-père qui se battait tout et qui était royaliste, qui se battait contre les communistes tous les week-ends, mais ils se battent à Versailles. Et ils se mettaient vraiment fortement sur la gueule. Quand j'étais gamin, les bagarres, sortie du lycée, sortie du collège, on a tous connu ça. Ça n'allait pas jusqu'à la mort, évidemment, ou alors c'était vraiment très rare, mais il y avait déjà des bagarres et avec des outils. Enfin, moi, j'avais un cran d'arrêt dans la poche, j'avais un poing américain, c'était comme ça. Et donc la société a toujours été violente. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on voit des situations où il y a une envie, même si vous pensez que vous, ils veulent pas tuer. Moi, je suis désolé, mais si vous vous mettez à 5 ou 6 sur quelqu'un et que vous commencez à lui mettre des coups de pompe dans la tête, ça va mal se finir. Nous, on savait très bien, quand on se battait, on touchait pas la tête comme ça. Quand il était au sol, c'était dans les côtes, ça allait pas plus loin, en fait.
Bah, il y avait une perception du danger, hein, ce que j'avais repéré, notamment dans les fameuses bandes de blousons noirs, dans les années 50, fin des années 50, hein. On savait jusqu'où ne pas aller trop loin. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'important, c'était de faire comprendre à l'autre qu'il était le moins fort. Et donc, on avait évidemment des couteaux, quelques chaînes, etc. Mais le projet n'était pas de tuer. Hein. Le projet, c'était de régler un compte, de faire comprendre qu'il y avait effectivement un plus fort et un plus faible. Ce qui a changé, c'est qu'effectivement, il y a eu une montée de la radicalisation, ce qu'on appelle l'ultra-violence aujourd'hui. Et ce fait nouveau, c'est que la violence est à la fois une perception, une représentation, une ambiance, un sentiment, des faits enregistrés, pas enregistrés. Elle est partout. Hein, l'autre jour, j'avais un chauffeur de taxi qui me disait, j'ai eu une altercation avec un automobiliste l'autre jour en me rendant à l'aéroport de Charles de Gaulle. Il m'a dit, mais c'était deux mots, vraiment pas très graves. Il m'a dit, mais ce type-là, il m'a poursuivi pendant 25 kilomètres en me faisant des appels de phare, en m'insultant, etc. Voilà, donc tout ça pour dire, c'est que malheureusement, les jeunes n'ont pas le monopole de la violence. Mmh. Hein. Et, d'ailleurs, je rappelle que la délinquance des mineurs, c'est moins de 20% de la délinquance générale. Voilà. Par contre, effectivement, au niveau des violences, notamment les violences contre les personnes, les violences sexuelles, c'est vrai qu'on retrouve aujourd'hui beaucoup plus de jeunes. Et dans les violences verbales, évidemment, aussi, il y en a un grand nombre.
Oui, mais parce que vous avez expliqué que dans les années 50, 60, même dans les années 80, l'idée, c'était de rabaisser dans le rapport hiérarchique, il y a le dominant, il y a le dominé, je te tape dessus, comme ça, tu reprends ta place de dominé. Aujourd'hui, on est face à des jeunes qui n'ont pas envie juste de rabaisser la personne, qui ont envie de l'éliminer, de lui ôter toute existence en tant qu'être humain. Parce que c'est ça, quand on roue de coups et qu'on s'en met en plus à quatre sur un petit de 15 ans, quand on en a 20, on n'a pas envie de lui faire comprendre, de le remettre à sa place. On a envie de l'éliminer de la surface de la Terre. Donc moi, je veux bien qu'il n'y a pas de volonté de tuer, etc. Mais en fait, en soi, dans l'idée qu'on puisse taper dans la tête d'un enfant de 15 ans, on sait très bien, parce que ces gens-là sont pas idiots, surtout que pour la plupart, c'était déjà des délinquants, donc ils avaient déjà un peu d'expérience et dans le domaine. Donc j'ai quand même du mal à imaginer qu'il y ait... Alors bien sûr, il n'y a peut-être pas cette intention de tuer verbalisée, mais en réalité, elle est complètement intériorisée, cette volonté de tuer.
Oui, mais...
Puisque l'autre n'existe pas.
Alors ça, c'est vrai, je partage tout à fait ce que vous dites. Hein. Il y a une négation même de la vie de l'autre. Hein. La vie n'existe pas. Mais des altercations, fort heureusement, qui débouchent sur des morts, donc de garçons ou de filles, sont encore, heureusement, rarissimes.
Ben pour l'instant, mais ça voilà. Va peut-être devenir la règle. Il y a 20 ans, on disait « Ah, mais ça, mais c'est encore minime, mais ça va pas dégénérer, on se rend compte où on en est ». Donc aujourd'hui, ce qui arrive avec l'hyperviolence de certains jeunes, si on ne fait rien, on va être où dans 10 ans ? Dans 10 ans, on va en avoir tous les jours des Shamsedine.
Face à cette ultra-violence, il
qu'est-ce
faut des ultra-sanctions. Alors, bon, d'abord,
déjà des
parce que bon,
ce serait bien.
Je voudrais pas qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas envie de dire. Bon, évidemment, quand il y a des infractions, il y a une intervention policière, il y a une réponse pénale. Bon, tout ça, c'est pas de mon fait. Moi, ce que je dis, c'est qu'effectivement, il y a un domaine sur lequel on n'a pas beaucoup avancé. C'est le domaine de la prévention. Tous azimuts, hein. D'ailleurs, dans un autre domaine, la prévention médicale, elle est tellement faible que finalement, hein, on a des situations de mauvaise santé qu'on ne devrait pas avoir. Voilà. La prévention, pour moi, ça veut dire, il faut repartir. Alors, je vais peut-être employer un mot très chrétien, hein, mais on a parlé de catéchisme laïque. Alors, on peut parler d'un catéchisme moral. Il faut repartir sur la connaissance des mots qui nomment les valeurs. La bienveillance, le respect, la tolérance de l'autre, par rapport à ce que disait Barbara, on est en désaccord, eh bien on en discute. Voilà. Il y avait quelque chose d'ailleurs, et quelque chose qui marche bien dans les écoles, c'est les médiations. Et peuvent être d'ailleurs d'élèves plus anciens par rapport à des plus petits, ou d'adultes avec... Le problème, pour rester sur le domaine de l'école, c'est la disparition de l'humain. Il n'y a pas assez d'assistants d'éducation, il n'y a pas assez d'infirmières, hein, il n'y a pas assez de médecins scolaires, voilà, et il n'y a pas assez d'interventions. Et moi, je suis frappé de voir que une cour de récréation de l'école primaire, c'est une école où le professeur ou la professeure des écoles estime que son devoir, c'est de réguler aussi l'organisation de l'espace. C'est pas un rôle que l'on a au niveau du secondaire. Donc, je dis toujours, la première zone de non-droit en France, c'est une cour de récréation.
Donc, est-ce qu'il faut mettre des conseils de discipline à l'école primaire, comme le souhaite Madame la ministre de l'Éducation nationale ?
Eh bien, paradoxalement, on va pas sortir de cette violence par plus de répression, mais par plus de dialogue. C'est-à-dire, il faut réhabituer les gens à discuter, à dialoguer, à échanger leurs désaccords. Hein, et notamment à l'école. Et ça passe par l'écoute non seulement des agresseurs, mais des agressés, de tout le monde.
Hein, oui, mais vous n'êtes pas sans savoir la pauvreté parfois linguistique et conceptuelle de certains qui ne peuvent pas s'exprimer. Ils vont vous dire, je sais pas comment le dire, madame. Alors cette phrase, je sais pas comment le dire, madame.
En général, derrière, on passe au geste.
Ah bah oui, de toute façon, c'est peut-être la phrase que j'ai le plus entendue dans ma carrière. Je sais pas comment le dire, madame. Ils ont pas les mots.
Pourquoi est-ce qu'on dégaine facilement les points? Parce qu'on peut pas dégainer les mots.
Vous restez avec nous, Michel Fils. Question de l'avocat Charles Consy dans un instant, de Bruno, de Barbara. À tout de suite avec Michel Fils pour parler de la crise morale que traverse la France. Crise morale qui aboutit peut-être à une crise de violence.
RMC, 9h30, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story. Les GG avec aujourd'hui sociologue Michel Fils. La crise morale de la France et des Français. Enquête sur l'individu trop incertain, c'est aux éditions Mimesis. On parle avec Michel Fils de cette France là qui se sent pas bien visiblement, d'une adolescence plus violente, qui est en quête de repères, de mots aussi pour mieux s'exprimer. Avec Barbara Lefebvre, avec Bruno Poncet, Charles Consigny, Maître Consigny, discussion non, avec Michel Fils.
Je trouve que cette discussion est très intéressante. Je me demande si on prend vraiment suffisamment la mesure du phénomène. Je pense qu'il y a un phénomène de racaillisation de toute une partie de la population qui maintenant obéit à un système culturel, un système de valeurs totalement alternatif au système de valeurs communément adopté par l'ensemble de la population. Je constate que ça va du jeune collégien qui va casser la gueule de son voisin pour une histoire de sœur à laquelle on parle, etc. Au livreur Amazon qui va regarder tout ce qu'il y a dans les boîtes pour se servir au passage le faire en toute impunité puisque c'est impossible derrière à retracer. On a eu plein de cas, tout le monde a vécu ça. Et donc moi je me dis, mais au fond qu'est-ce qu'on... Donc vous dites il faut se réapproprier des termes, etc., réinculquer des valeurs, etc. Bon, mais on sait plus vraiment quoi faire en fait. On est un peu démunis, les politiques sont démunis, les profs on en parle même pas parce qu'ils sont en première ligne. On se dit mais qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de d'endiguer ce phénomène de jeunes gens qui ont quand même des traits communs, je veux dire, qui s'habillent un peu de la même façon, qui ont un peu les mêmes goûts. Il y a aussi un peu parfois d'intégrisme religieux qui vient se mettre là-dedans, on l'a vu sur Samara. Donc il y a toute une espèce de contre-société qui se crée et qui franchement n'est pas souhaitable et contre laquelle on aimerait bien lutter. Donc moi je me dis, est-ce que il y a un phénomène de relégation sociale quand même qui existe, de jeunes qui sont dans des quartiers dans lesquels ils ont malgré tout pas le même horizon que les autres, ils entrevoient pas les mêmes possibilités, ils ont pas les mêmes facilités, ils ont pas les cours particuliers le soir, quand ils commencent à décrocher à l'école, ils sont moins surveillés par leurs parents, ils ont des parents qui sont débordés. Est-ce qu'on devrait pas aussi responsabiliser les parents d'une certaine, y compris via des sanctions pécuniaires ou que sais-je, mais je pense qu'il y aurait quelque chose à faire de ce côté-là. Voilà. Est-ce que le phénomène n'est pas quand même, vous dites que la délinquance est stable depuis les années 2000, est-ce que le phénomène n'est pas quand même un peu, n'a pas tendance à se généraliser de manière inquiétante, et qu'est-ce qu'on peut faire en termes très pratico-pratiques, selon vous, pour casser ça?
Alors déjà, par rapport aux familles, là, je suis tout à fait d'accord avec le propos qu'a tenu le président quand il parle de l'accompagnement des familles et de la responsabilisation d'un certain nombre de parents. Alors maintenant, il faut trouver les bonnes réponses. Pour moi, les bonnes réponses, c'est ce que j'ai appelé un jour, peut-être, en termes d'imagination, d'imaginer des stages de soins parentaux. C'est-à-dire pour permettre aux parents de remplir leur mission de parents. Parce qu'effectivement, je suis de ceux qui, comme chacun autour de la table, considèrent que les parents doivent éduquer. Voilà. Mais il faut qu'ils aient les moyens d'éduquer. Or, le président prenait l'exemple des mamans solo. Bon, les mamans solo sont des mamans en grande difficulté de précarité professionnelle et de précarité financière. Donc, ajouter une sanction financière à déjà des insuffisances monétaires ne ferait qu'aggraver la situation. Voilà. Mais encore une fois, c'est pas...
On peut sanctionner le père.
S'il est là.
S'il est là. Voilà. Mais même s'il est pas là.
S'il est au pays ou s'il a jamais existé, laissé la femme tomber dès le début.
Alors maintenant pour repartir, bon, je pense qu'effectivement il faudrait que le politique prenne conscience du béaba d'un fonctionnement social. Voilà. Quel est le besoin élémentaire de tout individu dans une société? C'est un besoin d'identité. On a besoin d'une identité à la fois personnelle, bien sûr, et d'une identité collective.
Et on la trouve dans la religion, voilà, cette identité aujourd'hui.
Voilà pourquoi le djihadisme marche. Parce qu'ils apportent clé en main une identité de substitution. Eh bien, tu vas aller combattre sur les terres syrakiennes ou autres,
ou en France,
par une série d'attentats. Voilà, tu vas être investi d'un rôle, avec évidemment une promesse.
C'est-à-dire le rôle, c'est plus le collectif aujourd'hui.
Et ben voilà, le
c'est
rôle
dans la dans une dans une rôle. France laïque, une république bah, laïque.
Ils sont dans le collectif, indivisible. Ils sont dans le collectif oui, de l'UMA, dans... c'est pas pareil.
Oui, mais non, mais le correspond à leurs valeurs. Est... La France, voilà. Ça veut dire la France ne correspond plus à la valeur de certains, Michel, aujourd'hui.
Non, mais il y a 50 ans, cette question-là que l'on aborde ne se posait pas. Tout simplement parce que les gens étaient dans des trajectoires sociales, professionnelles. L'insertion se faisait naturellement par une réussite en classe, donc à des niveaux différents selon évidemment les performances scolaires, et par l'entrée en emploi. Mm-hmm. Hein, de même que blouson noir, on n'était pas membre d'une bande quasiment à vie comme c'est le cas aujourd'hui. On était en bande pour un temps qui précédait le départ au service militaire pour les uns, les fiançailles, l'emploi. Voilà, à partir du moment où une société n'est plus capable d'apporter un rôle à tout le monde, hein, eh bien vous avez ceux qui vont s'engouffrer dans la brèche, voilà, et qui vont apporter évidemment une solution alternative.
Est-ce que précisément ça c'est pas l'écueil de l'hyper-individualisme, parce que c'est pas à la société de trouver pour chacun une voie, c'est à chacun de se trouver sa propre voie. Mais comme en même temps on est venu dire qu'il fallait qu'il ait à nounou et que l'État allait répondre à chacun, on est dans quelque chose qui est une dissonance cognitive complète. C'est-à-dire que d'un côté on surcélèbre l'individu qui doit tout réussir par lui-même, et en même temps un État nounou qui lui dit ah mais attends, si tu y arrives pas on va t'aider. Donc les gens ils n'arrivent plus à gérer les choses.
Eh bien vous savez, comme dans le milieu politique en 1958 on avait dit il faut rationaliser le parlementarisme. Je crois que par rapport à ce que vous dites, il faut rationaliser l'individualisme. L'individualisme, c'est pas le laisser faire, c'est pas le laisser dire. L'individualisme, c'est peut-être une philosophie progressiste, mais qui s'encadre dans un cadre qui est le cadre social, où effectivement, on ne peut pas être dans des rapports de force au quotidien.
Bah là, les Français en auront le bol. Vous avez vu?
Oui.
Ils en ont marre. Ils veulent, selon les derniers sondages, ils veulent un pouvoir fort. Un pouvoir autoritaire qui pourrait même s'affranchir de certaines règles démocratiques. Et il y a une valeur qui monte de plus en plus dans les sondages, c'est la tranquillité. Donc, faudra pas s'étonner si en 2027, il y a un parti qui arrive au pouvoir en ayant ça veut pas dire qu'il va réussir. Mais les Français veulent de l'ordre dans le pays aujourd'hui. Et quels que soient les niveaux de la population, les niveaux sociaux, Michel Fizet.
Ben c'est là où il ne faut pas confondre les besoins d'une société et les besoins d'un État. Un État peut reposer ou vouloir reposer sur une restauration de l'autorité politique. Alors, ce qui me paraît compliqué, c'est que restaurer une autorité politique, au sens où on pouvait l'entendre dans les années 50, alors qu'on est dans un cadre de fonctionnement quand même démocratique, hein, et libéral, ça va être un petit peu compliqué. Hein. C'est comme si on voulait remettre aujourd'hui les voitures à cheval, hein, pour se dire, bah oui, c'était quand même bien mieux avant, on n'avait pas toute cette circulation. Voilà, donc il faut réinventer probablement une autre façon de faire de la politique, hein, une autre façon d'être en démocratie, de mieux concilier démocratie représentative et démocratie qu'on appelle participative. Mais il faut surtout encadrer l'individualisme. L'individualisme, c'est pas le laisser dire, c'est pas le laisser faire. Hein. L'individualisme ne gomme pas un individu qui doit être aussi un individu social.
Je vais vous faire écouter Mila ce matin, qui était invitée d'Apolline de Malherbe.
J'ai entendu, oui.
Sur RMC et BFM TV. Voilà ce qu'elle disait, Mila. Un vrai coup de gueule, un coup de colère, elle avait la rage.
Je n'ose imaginer la pression que doivent subir ces jeunes filles. On attend d'elles qu'elles conviennent à ces standards-là qui devraient même pas exister. On parle de laïcité au sein des établissements. Est-ce que la laïcité, elle est encore efficace aujourd'hui? Pour moi, la laïcité, elle est morte.
C'était chez Apolline de Malherbe. Elle est morte, la laïcité, en France, Michel Fizet?
Alors, la laïcité, bon, ce serait un débat en soi. Est-ce que c'est la solution ou est-ce que c'est devenu le problème? Bon, c'est peut-être un petit peu les deux. En tout cas, bon, ce qui est clair, c'est que on ne peut pas accepter, hein, au nom du développement des droits des femmes, de voir réapparaître, notamment chez certains jeunes, cette espèce d'emprise des mâles dominants sur les filles qui seraient par définition dominées. Ça, c'est une culture effectivement moyenâgeuse qui ne peut pas trouver sa place dans un ensemble démocratique qui est encore la France. Voilà, donc effectivement, Mila a raison de rappeler encore une fois que les jeunes filles sont porteuses de droits et qu'elles n'ont pas à être surveillées, contrôlées par des grands frères. Mais c'est pas nouveau. Hein. Il y a 40 ans déjà, on dénonçait ces grands frères qui se croyaient autorisés à exercer une mainmise sur les...
40 ans après, c'est l'échec alors.
Voilà, oui.
Parce que c'est encore la mainmise est encore plus étendue.
Et ça donne ce drame. Vous rendez compte, pour une histoire amoureuse, bon, peut-être sexuelle, mais peu importe. Hein, on n'est quand même pas au temps du Moyen Âge là aussi. On en arrive à ce drame de Viry-Châtillon. Voilà, c'est bon, ça dépasse un peu l'entendement.
Cette histoire est très intéressante parce qu'elle induit donc que certains une catégorie de la population en France considère que la femme doit être pure. Pudique, je veux dire, cette idée de pureté est une idée d'ailleurs profondément en soi, c'est la base du racisme, hein, l'idée de la pureté. Ces gens-là ont une vision totalitaire puisqu'ils assignent à la fille d'être la représentante de la pureté familiale, de la pureté de la lignée. Donc, je ne comprends même pas comment des féministes ne peuvent pas s'insurger contre cette vision de la femme qui devrait être un corps pur, une âme pure, aux mains
c'est
des hommes.
C'est fini. Merci Michel Fils.
Je voulais que Michel Fils
donne une... La réponse en 20 secondes.
Non, c'est la face sombre de l'islam, hein, naturellement, bien sûr. Il y a aussi des traditions qui ne sont pas conformes aux traditions démocratiques d'une société comme la France.
Merci Michel Fils. La crise morale de la France et des Français, c'est aux éditions Nimesis. Merci d'avoir été dans les chiffres, dans les grandes gueules.